Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du vendredi 4 mai 2018. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Ben, c'est le 4 mai. Aujourd'hui, on en parlait hier à propos de Star Wars. Vous devez être de bonne humeur, mais vous n'avez pas mis votre T-shirt.
Ben non, en fait, j'aime beaucoup Star Wars, mais de là à connaître qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de Star Wars.
Non, il fallait que vous fassiez des recherches pour les éphémérides.
Ben voilà.
Bon, alors on vous écoute.
Alors aujourd'hui, oui, c'est aussi la journée internationale des pompiers, le 4 mars.
Salut bien, j'en connais un, entre autres.
C'est vrai?
Oui, le fils de ma cousine.
Eh
il
bien.
S'appelle Thomas. Je le salue.
Bonjour Thomas. Donc, dans l'histoire, que s'est-il passé? Un 4 mai, en 1814, Napoléon part en exil à l'île d'Elbe, pardon, en Méditerranée. En 1818, première navette d'un vapeur entre Québec et Lévis. 1897, à Paris, l'incendie du bazar de la Charité fait malheureusement 117 morts. 1907, à Ottawa, il tombe, écoutez bien.
Des grenouilles?
Non. 19,1 cm de neige. Ah, c'était le bon temps.
Presque 20 cm.
C'est quand même...
Un 4 mai.
Oui, mais voilà. 1907.
À Ottawa.
À Ottawa.
Donc, il y a 111 ans
exact.
Aujourd'hui.
C'est ça fait longtemps.
Oui, mais c'est ça, des aberrations météorologiques, on peut appeler ça comme ça.
Mm-hmm.
Ça arrive pas juste depuis les années 2000. Là.
Non, effectivement. Heureusement, c'était pas des grenouilles, mais c'était que de la neige.
Oui. Alors, continuez.
Oui, merci. En 1910, une loi crée la marine canadienne distincte de la Royal Navy. En 1919, en Chine, toujours un 4 mai, des étudiants dénoncent le traité de Versailles qui attribue au Japon la province de Shandong. Ce mouvement du 4 mai deviendra le Parti communiste québécois. Excusez. Le Parti communiste chinois. En 1961...
Vous êtes mieux de vous excuser.
Oui, oui. En 1961, nommé à la cour municipale pour Saint-Georges et Beauceville, Thérèse Lemay devient la première femme juge au Québec. En 1970, à l'université Kent State en Ohio, la garde nationale tue 4 étudiants qui dénonçaient la guerre du Vietnam. 1971, glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney au Saguenay. 35 maisons sont emportées. Il y a 31 morts. 4 mai 1977, les États-Unis signent un accord acceptant l'admission du Vietnam aux Nations Unies et levant l'embargo contre ce pays. 1988, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Marcel Fontaine, derniers otages français au Liban, sont libérés après 3 ans de captivité. 1990, une loi spéciale met fin à un conflit de travail de 18 mois à Hydro-Québec. Au Vatican, en 1998, le chef des gardes suisses et sa femme sont assassinés le jour de sa nomination par un des hommes qui convoitait le poste et qui ensuite se suicide.
Aïe, aïe, aïe.
1999, les premiers réfugiés du Kosovo arrivent au Canada, à la base de Trenton, en Ontario. En 2001, Jean-Paul II en visite en Grèce. La première visite d'un pape depuis 13 siècles exprime ses regrets pour le sac de Constantinople par les croisés en 1204.
Vaut mieux tard que jamais.
Oui, effectivement. Et en 2007, à New York, le gangster montréalais Vito Rizzuto avoue avoir participé à des meurtres en mai 1981 à Brooklyn pour le clan Bonanno. Et pour ce qui est des naissances, nous avons l'inventeur du pianoforte, Bartolomeo Cristofori, qui est né en 1655. Et nous avons aussi la naissance de Charles-Eugène Boucher de Boucherville, le premier ministre du Québec, qui est né, lui, en 1822. Et nous avons Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn.
Je me crée des accents ce matin. L'actrice Audrey Hepburn, qui est née à Bruxelles, elle, en 1929, qui nous a quittés en 1993.
Synonyme d'élégance. Un grand merci, Matteo.
Bienvenuto.
À la une de la presse, enquête des naturopathes présentés comme médecins. Des enseignants en naturopathie ont été faussement dépeints comme médecins ou comme ex-directeurs d'un service d'oncologie, a découvert la presse en consultant les sites de leur école, ce qui contrevient à la loi médicale. Exclusif, section affaires, l'AMF enquête sur Sinorama. Sport cyclisme, le Giro démarre en Israël grâce à un Québécois. Sextage et distribution de pornographie juvénile, 6 élèves de 12 et 13 ans arrêtés. Oui, merci Mathieu, on dit sextage. Pose chic, accro à la lessive, nous lavons trop nos vêtements, disent des experts consultés par la presse. Dans les mises à jour de la presse, Amir Kadir confirmerait ce matin son départ de la politique. Le député de la circonscription de Mercier a convoqué la presse à 10 heures, alors au moment où on se parle, vendredi, aujourd'hui même, possiblement pour annoncer qu'il ne sera pas candidat aux élections générales de l'automne prochain au Québec. Le député fera part de ses intentions dans sa circonscription montréalaise. Il sera accompagné de son collègue Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin. Amir Kadir, qui aura 57 ans le mois prochain, est né à Téhéran, en Iran. Il est détenteur d'un doctorat en médecine de l'Université Laval et d'une maîtrise en physique de l'Université McGill. Il s'est plus tard spécialisé en microbiologie-infectiologie à l'Université de Montréal, avant d'œuvrer dans cette spécialité au centre hospitalier Pierre Legardeur à Terrebonne, dans la Naudière. Selon la rumeur, il délaisserait la politique pour se consacrer davantage à la médecine. Amir Kadir a été le premier député élu de Québec solidaire. Il représente la circonscription de Mercier depuis 2008. Alors, on en parlait hier du prix Nobel. Sera-t-il attribué ou non? Graal, des romanciers, poètes et dramaturges depuis plus d'un siècle, le prix Nobel de littérature ne sera pas décerné cette année. Victime de la déflagration MeToo qui a fait imploser l'Académie suédoise. Le tout Stockholm littéraire bruissait de la rumeur, comme la chronique d'un désastre annoncé. Le nom du lauréat du Nobel 2018 de littérature sera arrêté et dévoilé en même temps que le lauréat 2019, a fait savoir vendredi l'Académie suédoise dans un communiqué, une première depuis près de 70 ans. Protagoniste d'un mauvais roman, les académiciens doivent engager un travail de réforme long et énergique, a justifié Anders Olsson, son secrétaire perpétuel par intérim. Nous jugeons indispensable de nous donner du temps pour restaurer la confiance avant la désignation du prochain lauréat, et ce par respect tant pour les lauréats passés que pour les lauréats à venir, a-t-il ajouté. Créée en 1786 sur le modèle de l'Académie française, l'Académie est prise dans la tourmente depuis les révélations du mouvement MeToo qui l'ont éclaboussée fin 2017 et s'est depuis déchirée sur la façon de traiter l'affaire. Ces dernières semaines, 6 des 18 sages, dont la secrétaire perpétuelle en exercice, Saria Danius, qualifiée de pire secrétaire depuis 1786 par l'un des membres, ont annoncé abandonner leur fauteuil. Deux membres ne participaient déjà plus depuis longtemps à ces travaux, réduisant à 10 le nombre d'académiciens actifs. Les raisons de la colère, les témoignages de 18 femmes publiées dans le quotidien de référence Dagens Nyheter en novembre, en pleine campagne MeToo, qui affirment avoir subi des violences ou des faits de harcèlement sexuel d'un Français, Jean-Claude Arnault, marié à l'académicienne Katharina Frostenzen, en retrait depuis. L'AMF enquête sur Sinorama. L'autorité des marchés financiers, AMF, a ouvert une enquête sur les activités de financement du voyagiste Sinorama, a appris la presse Affaires. Dans le cadre de nos activités de surveillance, l'autorité a ouvert une enquête dans ce dossier, enquête à laquelle collaborent pleinement les dirigeants de l'entreprise, a déclaré Sylvain Théberge, porte-parole de l'AMF, qui n'a pas voulu en dire davantage. Selon nos informations, cet organisme, qui joue le rôle de chien de garde des marchés financiers, s'intéresse notamment aux collectes de fonds de Sinorama Corporation auprès des investisseurs pour financer sa croissance, faut-il le savoir. Sinorama a fait un appel public à l'épargne auprès des investisseurs à l'automne 2016, suivi d'un second en novembre 2017. Les deux collectes de fonds ont totalisé 4,4 millions US, 5,5 millions canadiens. Hier, notre reportage révélait qu'il manquait 10,9 millions canadiens dans les coffres de Sinorama à la fin de 2017 pour honorer au cours des mois suivants les voyages déjà payés par les clients. Sinorama espère combler ce trou financier avec ses activités futures, c'est-à-dire auprès d'autres clients selon ce qui est écrit dans les états financiers 2017 de l'entreprise, rendu public le 17 avril. L'Office de la protection du consommateur, OPC, procède à des vérifications. Le voyagiste Sinorama a publié un communiqué en début de soirée hier dans lequel il affirme avoir une situation financière saine qui lui permettra de poursuivre adéquatement ses opérations au cours des prochains mois et des prochaines années. Comédie-Ha, somme le Grand Montréal Comedy Fest de changer de nom. La guerre est déclarée entre les festivals d'humour de Québec et de Montréal. L'agence Comédie-Ha a en effet déposé mardi une demande d'injonction contre le Grand Montréal Comedy Fest afin que ce dernier cesse d'utiliser cette appellation jugée préjudiciable au Comédie-Ha Fest. Saint-Luc, sous le pic des démolisseurs depuis le déménagement de ses patients en octobre dernier, des ouvriers travaillent à démolir l'hôpital Saint-Luc. L'opération est délicate en raison de sa proximité avec le nouveau centre hospitalier de l'Université de Montréal. L'entrepreneur Pomerleau, chargé de la démolition, devait d'abord décontaminer les lieux, puis démolir l'intérieur de l'établissement avant de s'attaquer à l'enveloppe et finalement à la structure. Que pense la mairesse Valérie Plante de l'annonce selon laquelle Denis Coderre sera collaborateur à l'antenne du 98,5 FM dans le cadre de l'émission « Puisqu'il faut se lever » de Paul Arcan? Évidemment, tout le monde a le droit d'exercer le métier qu'il veut, a réagi Mme Plante en mêlée de presse. M. Coderre a dit, après avoir perdu l'élection, qu'il ne ferait pas la belle-mère, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Quant à savoir si elle l'écouterait, l'ancien maire, elle a simplement répondu qu'elle écoutait toutes les radios montréalaises. On pourra entendre M. Coderre avec Mario Dumont à compter de lundi prochain, alors qu'il remplacera pendant quelques jours Pierre Curzi. Sa collaboration à l'émission s'étendra-t-elle au-delà? Cela reste à suivre. En Inde, des tempêtes font au moins 125 morts. Des cieux déchaînés ont entraîné la mort d'au moins 125 personnes ces derniers jours en Inde, un bilan principalement imputable à des tempêtes de sable parmi les plus meurtrières depuis plusieurs décennies. Au moins 111 personnes ont péri en raison de vents soufflant jusqu'à 130 km/h dans le nord au cours de la nuit de mercredi à hier, ont rapporté les autorités locales. Dans un épisode météorologique distinct, la foudre avait par ailleurs provoqué la veille la mort de 14 autres personnes dans l'état méridional d'Andhra Pradesh, qui avait été frappé près de 41 000 fois par la foudre, ont précisé les autorités chargées des opérations de secours.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour pour vous. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés.
De Melody Nelson, Serge Gainsbourg.
À la une du Devoir de ce vendredi 4 mai 2018, une photo de Laurent Beaudoin. Laurent Beaudoin quitte Bombardier après avoir consacré 55 ans de sa vie au développement de Bombardier. Laurent Beaudoin quitte le conseil d'administration de l'entreprise, estimant qu'elle est résolument sur la bonne voie malgré la tourmente des dernières années. Trudeau tient aux quatre plants de marijuana. Avion ambulance, les enfants d'abord et seulement les enfants. De jeunes patients sont encore évacués du Nunavik sans leurs parents. Le lourd héritage de la jeunesse italienne, Anna Rita Zambrano, revisite les lendemains des années de plomb. Anna Rita Zambrano, de passage à Montréal pour la sortie de son premier long-métrage après la guerre, Dopo la guerra, film intimiste sur les conséquences d'actes de terrorisme dans une famille franco-italienne. Trump avoue avoir payé Stormy Daniels. Comment gagner la guerre contre le djihad? Zeitgeist, le ressac violent d'une tribu. Et week-end, les secrets de Bon Secours, tour guidé dans le quartier du Vieux-Montréal qui renferme de précieux sites patrimoniaux. Québec et Ottawa se dirigent décidément vers les tribunaux dans le dossier de la marijuana, car bien que Québec refuse d'autoriser la culture de marijuana à domicile, Ottawa martèle que son approche, qui permettra d'en faire pousser quatre plants chez soi, est la bonne et Justin Trudeau refuse d'amender son projet de loi pour octroyer cette liberté du Québec. C'est pour créer un système qui va remplacer les éléments criminels qui font des profits avec cette vente de marijuana, a fait valoir M. Trudeau jeudi. On continue de travailler avec les provinces sur leurs responsabilités par rapport au régime qui sera mis en place, mais soyons très clairs, notre décision de permettre la culture d'un nombre limité de plants de marijuana à domicile est basée sur les faits, sur les données, sur les recommandations d'experts. Des enfants malades continuent d'être évacués en avion du Nunavik sans que leurs parents puissent les accompagner. Trois mois après que le ministre de la Santé eut annoncé des changements à cette pratique, la situation demeure identique, déplorent des urgentologues et pédiatres. Dans les deux dernières semaines, au moins trois enfants sont arrivés à l'urgence de l'hôpital de Montréal pour enfants, sans aucun accompagnateur. J'étais de garde pour deux semaines en avril et j'ai vu un enfant arriver sans ses parents. Je me suis dit, ça arrive encore? Je pensais que c'était fini, les transports sans les parents, a raconté la chef des soins intensifs de l'hôpital Salim Razak. Urgentologue pédiatrique au même hôpital, Anne-Marie Gosselin confirme qu'il y a eu encore de ces malheureux épisodes d'évacuation en solitaire dans les deux dernières semaines. Mais cette pratique qualifiée de barbare par certains médecins n'est pas propre au Nunavik. Les enfants évacués des régions éloignées à bord de l'appareil Challenger, comme la Gaspésie ou l'Abitibi, le sont le plus souvent sans leurs parents. Il y a deux semaines, Anne Kelly n'a pas compris qu'on ne la laisse pas monter à bord de l'avion hôpital pour accompagner son enfant qui était évacué de Koudjouak. Âgé de 4 ans, il devait être opéré d'urgence pour une pièce d'un dollar coincée dans sa gorge. Quand je lui ai demandé pourquoi, l'infirmière m'a dit que c'était la politique, que c'était comme ça depuis des décennies, raconte-t-elle dans un mélange de colère et de tristesse. Début février, après que les évacuations solitaires eurent été dénoncées par des médecins dans les médias, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait promis de faire modifier la politique pour que montent à bord les parents, mais aux conditions de l'équipe médicale et de pilotage. Selon Évacuation aéromédicale du Québec, cette politique n'a jamais existé, mais le service est en train d'en élaborer une pour inclure les parents d'emblée, qui devrait aboutir d'ici quelques semaines, a indiqué Geneviève Dupuis, porte-parole du Centre hospitalier universitaire de Québec. Les chauffeurs d'autobus de la Société de transport de Montréal ont voté jeudi à 99 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Les discussions entre la STM et les syndiqués achoppent sur plusieurs points, mais principalement sur le temps alloué aux chauffeurs pour terminer un trajet d'autobus. La STM négocie actuellement avec 3 des 6 syndicats représentant différents groupes d'employés au sein de l'entreprise. Les employés d'entretien ont annoncé de leur côté 6 jours de grève d'heures supplémentaires dès la semaine prochaine, du 7 au 12 mai. Une action collective intentée contre 2 géants pharmaceutiques et soutenant que l'utilisation régulière de la poudre de tac est liée à un risque accru de développer un cancer des ovaires a été autorisée par la Cour supérieure du Québec. Selon un jugement publié mercredi, la poursuite a été déposée au nom de toutes les personnes au Québec ayant utilisé la poudre pour bébé de Johnson & Johnson ou le produit Shower to Shower de Valeant pour leur partie génitale et ayant reçu plus tard un diagnostic de cancer des ovaires. La principale plaignante est une Québécoise qui affirme avoir développé un cancer en 2012 après avoir utilisé des produits à base de talc de 1962 à 2013. Twitter recommande à ses 336 millions d'utilisateurs de changer leur mot de passe après qu'un pépin technique eût exposé certains d'entre eux dans un registre interne. Le réseau social a expliqué qu'il avait habituellement recours à une technologie pour masquer les mots de passe afin que personne ne puisse les voir, mais qu'un bug avait empêché son fonctionnement et fait en sorte que ceux-ci sont visibles. L'entreprise assure qu'elle n'a aucune raison de croire que les mots de passe touchés par le problème auraient quitté ses systèmes, et une enquête n'a révélé aucune faille de sécurité ou utilisation douteuse des données. Le député Erwin Ware aurait pu rester membre du caucus du NPD, mais il a commis l'erreur de dénoncer publiquement les allégations de harcèlement pesant contre lui depuis des semaines. Cet acte d'insubordination a convaincu son chef, Jagmeet Singh de l'expulser. Il a contesté les résultats de l'enquête, a déploré M. Singh. Il s'est attaqué à la plaignante et il a aussi dévoilé des détails qui peuvent identifier la personne qui a partagé la plainte. À cause de cela, je ne peux pas avoir confiance dans sa capacité de réhabilitation à cause de ses actions qui montrent qu'il n'accepte pas la responsabilité. Erin Weir est dans les limbes politiques depuis le 1er février. Alors qu'il tentait de devenir président du caucus, sa collègue Christine Moore s'y est opposée. « Il y a trop de femmes, principalement des employées, qui m'ont confié que tu les harcelais. » Mis en difficulté par l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, qui affirme avoir eu une liaison avec lui, le président américain Donald Trump a radicalement changé de stratégie jeudi en admettant avoir déboursé 130 000 $ pour qu'elle se taise. Jusque-là, M. Trump assurait ne rien savoir de ces 130 000 $ versés par son avocat personnel à la femme blonde et plantureuse, qui a saisi la justice pour invalider cet accord de confidentialité. La transaction entre Michael Cohen et Mme Daniels avait été négociée un mois avant l'élection présidentielle remportée par M. Trump. Dans une justification déroulée sous forme de tweet, M. Trump a expliqué jeudi qu'un tel paiement était chose courante dans l'univers des personnalités publiques et que cela n'avait pas été prélevé sur le financement de sa campagne électorale, ce qui aurait été illégal. Ces accords sont très fréquents parmi les célébrités et les personnes fortunées. M. Cohen, un avocat, recevait une avance mensuelle sur honoraires qui n'avait rien à voir avec l'équipe de campagne en vertu de laquelle il a conclu avec remboursement un contrat privé entre deux parties.
Me voilà bourgeon sans racine. Comme une fleur qu'on ne devine que par la forme, la taille fine, rien que bourgeon sans racine. Comme on épluche une clémentine, tu m'as cuisiné sans farine. C'est la beauté que tu élimines, diamant que tu retournes à la mine. Je préfère voir les fleurs sauvages couvrir notre tombe. Une rose ou une fleur plastique me ferait de l'ombre. Je préfère voir ces fleurs sauvages pour lesquelles jamais me
Valérie Carpentier et sa chanson « Les fleurs sauvages ».
En une du Journal de Montréal, Sonia Benezra, une photo d'elle. Sonia Benezra revient de loin, une émission à TVA après 6 ans d'absence à la télé. J'étais tellement frustrée. Les Autochtones inquiets de la légalisation du cannabis, interdit de fumer du pot avant 21 ans à Kanawake. Président de l'Assemblée nationale, Chagnon admet qu'il paye la traite aux députés. Le choc des idées à propos de la privatisation de la pêche au saumon, la chronique de Denise Bombardier intitulée « Des paradis réservés à l'élite » et celle de Claude Villeneuve, « Les Québécois perdent le Nord ». Il faudra 21 ans pour fumer du cannabis à Kanawake. Le conseil de bande Mohawk veut faire adopter son propre projet de loi. Le conseil Mohawk de Kanawake a décidé d'adopter une approche plus prudente que celle du gouvernement du Québec, tandis que le chef de la réserve de Kanasetake, Serge Simon, s'inquiète qu'on légalise le pot sans lui donner les moyens de lutter contre la contrebande qui commence déjà dans sa communauté. Toutes les communautés autochtones sont en réflexion quant aux différents modèles qu'elles adopteront. Avec son projet de loi sur le contrôle du cannabis, Kanawake est l'une des plus avancées sur la question. En plus de hausser à 21 ans l'âge minimal pour consommer, Kanawake veut créer un deuxième système de licence pour la production du pot et mettre sur pied son propre réseau de vente. « Nous voulons nos propres lois pour répondre aux besoins de notre population », explique Gina Deer, chef du conseil de bande. Un projet de loi a d'ailleurs été soumis à la communauté il y a 2 semaines. Les bénéfices socio-économiques de l'industrie de la marijuana ont aussi été pris en compte, selon Mme Deer. Le projet prévoit son propre réseau de vente en dispensaire. L'automne dernier, la ministre de la Santé publique, Lucie Charlebois, avait déclaré au Devoir que les Autochtones pourraient commercialiser le pot comme ils veulent, où ils veulent, au prix qu'ils veulent. Elle s'était ensuite ravisée en affirmant que le prix de vente pourrait faire l'objet d'ententes, comme le prévoit le projet de loi provincial. Jacques Chagnon reconnaît qu'il paye la traite aux députés. En entrevue avec notre bureau parlementaire, M. Chagnon ne nie pas qu'il paye la traite. C'est le genre de choses que je fais effectivement chaque fois qu'on est en mission. Et c'est ça. Mais on n'est pas dans l'orgie du 12e siècle dans la Toscane avec la famille Médicis, a rétorqué le député libéral de Westmount-Saint-Louis. Le journal rapportait la semaine dernière l'absence de transparence de l'Assemblée nationale qui refuse de dévoiler dans le détail le coût des missions parlementaires. Des députés affirmaient sous le couvert de l'anonymat que le président Jacques Chagnon abusait en dépensant beaucoup en vin et en nourriture. Selon nos sources, lors de la mission à Berne en Suisse en 2015, un chalet dans les montagnes a été loué. Il y avait de l'alcool à volonté et un souper traditionnel suisse. Chaque fois qu'on fait une mission, j'invite les membres à un dîner pour faire le point. Et aussi, c'est important de faire du team building. Je veux que tout le monde se sente membre du groupe, membre du Parlement, dit-il. Il réfute toutefois les accusations d'avoir fait couler le vin à flot lors d'une mission parlementaire l'été dernier au Luxembourg, où il aurait payé de 2 à 3 bouteilles par personne. « Vous essayerez ça, vous, de prendre 3 bouteilles de vin dans un soir. Si vous n'êtes pas ben malade, si vous n'êtes pas tombé dans un coma éthylique, ce sont des exagérations », a-t-il déploré. Jacques Chagnon s'est dit d'accord pour rendre public le détail des dépenses de voyage des élus, conformément à une motion adoptée par l'Assemblée nationale. Liberté conditionnelle refusée pour l'écrivain jeunesse Maxime Roussy. Pour la première fois hier, l'auteur jeunesse Maxime Roussy a avoué avoir mené une vie de délinquant sexuel qui commettait des crimes affreux sur une adolescente. Cela n'a toutefois pas été suffisant pour qu'il obtienne sa libération conditionnelle. Des grutiers manifesteront samedi à la hauteur de leurs moyens alors qu'ils prendront la rue avec une quinzaine de grues pour dénoncer les modifications apportées récemment à leur formation. Québec a annoncé récemment que les entreprises pourront former des grutiers à l'aide d'un cours de 150 heures et un examen dont le seuil de réussite est de 80 %. Le fait que des grutiers sans diplôme d'études professionnelles puissent opérer sur des chantiers représente un danger pour le public et les travailleurs, estime l'Union des opérateurs grutiers affiliés à la Fédération des travailleurs du Québec. Entre 600 et 700 grutiers et des entreprises sont attendus samedi à midi devant les bureaux de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail. Ils vont par la suite se diriger vers les bureaux du Premier ministre du Québec un kilomètre plus loin. Les usagers de la ligne de train de Deux-Montagnes auraient 6 fois plus de places assises durant l'heure du matin, la plus achalandée si le grand déblocage du Parti québécois était préféré au réseau express métropolitain. Un rapport de la Coalition Climat Montréal, fermement opposé au REM, calcule que ce mode de transport offrirait seulement 1440 places assises en heure maximale de pointe, alors qu'avec le grand déblocage présenté par le PQ en mars, 10 074 personnes pourraient s'asseoir dans les trains. Nos chiffres montrent que le REM ne répond pas aux besoins des usagers, affirme l'un des auteurs de l'étude, Jean-François Lefebvre, chargé de cours en planification urbaine à l'Université du Québec à Montréal. La filiale CDPQ Infra, responsable du REM pour la Caisse de dépôt, ne nie pas une baisse des places assises en heure de pointe, mais selon elle, le REM a ses avantages. Le confort, ce n'est pas seulement d'être assis, avance son porte-parole Jean-Vincent Lacroix. Le REM aura des voitures climatisées, avec le Wi-Fi et accessibles universellement. À propos de la nouvelle de Trump qui revoit sa stratégie de défense face à Stormy Daniels, mis en difficulté par l'actrice de films pornographiques qui affirme avoir eu une liaison avec lui, le président américain Donald Trump a radicalement changé de stratégie hier en admettant avoir déboursé 130 000 $ pour qu'elle se taise. Selon le président, cette transaction avait pour but de mettre fin aux accusations fausses de Stormy Daniels, qui l'accuse de chercher à lui extorquer de l'argent. Et une statue de Donald Trump nue et bedonnant a été adjugée 28 000 $ à Los Angeles, l'acquéreur étant une personnalité de la télévision américaine amateur d'activités paranormales. Cette création d'un collectif anarchiste de la côte ouest des États-Unis est probablement l'unique exemplaire restant du 45e président américain, représenté dans le plus simple appareil ayant échappé à la destruction ou à être confisqué et qui n'a pas été vandalisé. C'est le sort qu'ont connu les 4 autres copies de Donald Trump nu, une création appelée « L'Empereur n'a pas de couilles ».
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie,
passe entre la jet set, les fast, les palaces, et puis les techniciens de surface. D'autres espèrent dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent de Pepper, mais ce n'est que Richard Jeanne. Entrer comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit: la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien, mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie. Oh, 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 et la vie manque d'amour, manque d'argent, comme la vie c'est détergent, et comme ça nettoie les gens. Jouer jeux interdits pour des amis endormis, la nostalgie, et il a dit:
la vie ne vaut rien, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, rien ne vaut, rien ne vaut la vie.
La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien, mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis, rien, 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 rien ne vaut la vie. La vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami. Là je dis, rien, rien.
La vie ne vaut rien, c'est le titre de la chanson et non pas une opinion personnelle, chanson de Tristan Malavoie.
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Alors, c'est confirmé, Amir Kadir confirme son départ de la politique. Le député de la circonscription de Mercier, Amir Kadir, a annoncé ce matin, 10 heures, qu'il quittera ses fonctions le 1er octobre 2018. Il ne sera ainsi pas candidat aux élections générales de l'automne prochain au Québec. Les journaux régionaux dans Le Soleil, Yann Bussière, chasse aux dindons sauvages, Québec vendrait des permis illégalement. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs vendrait illégalement des permis de chasse aux dindons sauvages à des non-résidents du Québec, une situation que le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, a mise en lumière cette semaine lors de l'étude des crédits budgétaires du ministère. Les non-résidents ont le droit de chasser s'ils ont un permis, a déclaré le ministre Luc Blanchette, interrogé par M. Roy, qui est également porte-parole de l'opposition officielle en matière de faune. Les permis sont en vente, sauf que dans les règlements, ce n'est pas écrit, a répliqué le péquiste. Selon le règlement, les non-résidents du Québec n'ont pas le droit de chasser le dindon sauvage. À la limite, on pourrait dire que la vente de permis est illégale. Le ministre Blanchette n'était pas au courant de la situation, mais a assuré que son gouvernement allait faire les clarifications qui s'imposent et apporter les correctifs nécessaires. « Je ne pensais pas qu'il y avait une faille dans la réglementation », a-t-il assuré au député Roy, qui déplorait que les permis soient en vente depuis l'ouverture de la chasse le 27 avril sans que la réglementation soit adaptée. Jeudi, Sylvain Roy a déclaré au Soleil que ce n'était pas la première fois que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avait ce genre de problème de communication. Quand il a été annoncé que les permis de pêche seraient gratuits, les agents de la Faune l'ont appris par Facebook, rappelle-t-il. C'est parce que la chasse aux dindons sauvages nécessite une formation spécifique en plus du cours de maniement d'armes, qu'elle n'est pas permise aux non-résidents en vertu du règlement sur la chasse. Pourtant, des permis ont été vendus cette année, 171,35 $ pièce à des non-résidents, insiste Sylvain Roy. C'est quelque chose qu'on a découvert. Le ministère offre de vendre des permis sans s'être référé à la loi qui nulle part ne stipule que les non-résidents peuvent chasser le dindon sauvage. M. Roy se demande maintenant si le ministère devra rembourser les permis aux non-résidents qui chassent le dindon sauvage illégalement avec l'approbation du gouvernement. Porte ouverte dans 145 bâtiments d'Ottawa, c'est dans le droit, Sylvie Branch. Le public aura accès au simulateur de la ligne de la Confédération lors de l'activité Portes ouvertes d'Ottawa. De plus, 145 bâtiments seront accessibles lors de cette fin de semaine, les 2 et 3 juin. Les curieux pourront observer les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de trains légers s'exercer à l'aide du simulateur dans l'édifice du chemin Belfast. Ce sera l'occasion de mieux comprendre l'évolution du transport en commun et d'en apprendre sur la technologie utilisée. Il y a des édifices qui ne sont pas ouverts au public en temps normal. C'est une chance très rare de pouvoir y entrer. Une fois par année, le public a la chance de les visiter. C'est très spécial, soutient Amy Kudrinko, coordonnatrice de l'événement. Parmi les nouveautés, on retrouve la centrale hydroélectrique aux chutes Chaudières, la Galerie d'art d'Ottawa, le centre de services GIG et la nouvelle scène, près de 80 000 visiteurs. Il y a tellement de bâtiments qui participent que c'est difficile de choisir. Je pense que les bâtiments de transport attireront beaucoup de visiteurs en raison du train léger. Le centre de formation d'OC Transpo, mais aussi la réserve du musée de l'aviation et de l'espace du Canada et la Banque d'art du Conseil des arts du Canada, affirme Mme Kudrinko. Pour la première fois depuis 2010, l'ambassade américaine située sur la promenade Sussex n'ouvrira pas ses portes aux visiteurs. Une semaine après les portes ouvertes, il y a le sommet du G7, alors je pense que c'est juste trop occupé, souligne Amy Kudrinko. Ça nous fait réfléchir, c'est dans le Nouvelliste, Audrey Tremblay, la TUC, à l'approche de la période des bals de finissant, plus de 150 jeunes de l'école secondaire Champagna et du La TUC High School ont pu assister à une simulation d'un grave accident, particulièrement réaliste au coin des rues Desbiens et La Croix à La TUC. C'est une activité de sensibilisation étant donné le bal des finissants qui approche. On veut sensibiliser les jeunes à l'alcool au volant et aux drogues également. On fait ça à titre préventif. Chaque année, on essaie de faire une activité et aujourd'hui, on a décidé de faire la simulation. On aimerait pouvoir répéter l'expérience tous les 2 ans, a lancé Charles Pellerin, policier à la Sûreté du Québec. Une scène avait été minutieusement aménagée en collaboration avec le garage Germain et Audi. Les pompiers, les ambulanciers et la morgue ont participé à cette simulation organisée par la Sûreté du Québec. L'événement a été percutant pour les jeunes. On avait fait ça il y a 4 ans. Et on voulait absolument refaire l'expérience. Il y a de belles prises de conscience qui sont faites. On trouvait ça important de faire cette sensibilisation-là pour nos élèves. On veut que les enfants soient en sécurité en tout temps. C'est percutant, mais ces chocs-là permettent souvent d'allumer des lumières pour éviter de banaliser une situation. Les ados se sentent souvent au-dessus de ça. On les sensibilise aussi à la vitesse, a lancé Julie Bronsard, directrice de l'école secondaire Champagna. L'après-midi avait d'abord commencé avec la présentation de vidéos dans l'agora de l'école secondaire Champagna. Les étudiants ont écouté avec intérêt, mais c'est surtout à l'extérieur qu'ils ont eu une prise de conscience. « C'est vraiment spécial de voir ça. Ça nous fait réfléchir même si je n'ai pas de permis. Je vais y penser deux fois avant d'embarquer avec quelqu'un qui a consommé, a lancé une étudiante. Brad Savard, lui, s'est livré au jeu. Il a pu vivre la scène de l'intérieur. Il a joué le rôle du conducteur ivre. C'était vraiment le fun. J'étais en dedans et j'ai vraiment embarqué dans mon rôle. Je marchais comme si j'avais mal partout et que j'étais vraiment chaud. C'est une belle expérience. J'étais déjà prudent d'avance, mais ça fait vraiment réfléchir. Un sondage maison a permis de savoir que 92 % des jeunes sur place avaient déjà consommé de l'alcool, 30 % des stupéfiants. À la question « Avez-vous déjà conduit un véhicule sous l'influence de l'alcool? », 13 % des jeunes ont répondu oui, 7 % sous l'influence de stupéfiants. Ce sondage anonyme a également permis d'apprendre qu'à 40 % des répondants ont déjà embarqué dans un véhicule conduit par une personne ayant consommé de la drogue ou de l'alcool. Afin d'en arriver là, les autorités ont mis plusieurs heures à préparer cette activité. Pour le service incendie de la ville de Latuc, l'implication était tout naturelle. On ne pouvait pas passer à côté d'un tel projet. La mission du service incendie, c'est également de faire de la prévention. C'est une occasion inouïe pour nous d'être ici. Les gens ne savent pas nécessairement ce que l'on fait et là, ils peuvent voir réellement notre travail. C'était une belle expérience pour nous, a indiqué le capitaine à la prévention au service de sécurité incendie de Ville de Latuc, Alexandre Bilodeau. Dans le quotidien, Annie-Claude Brisson. Apprendre dans la nature, apprendre en dehors du cadre professionnel rigide d'une classe traditionnelle, voilà l'un des objectifs du camp scolaire de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, CSLSJ. Grâce à ce projet pédagogique novateur, les jeunes étudiants de niveau secondaire se retrouvent dans un contexte immersif en pleine nature. Le projet fondé par Jean Gaudreau, enseignant en sciences, et Jérôme Gagnon, conseiller pédagogique et enseignant en éducation physique, consiste en une période de 4 jours en nature qui est offerte pour le moment à des étudiants de l'école secondaire Jean Gautier. Les jeunes sont sélectionnés par les enseignants et la direction de l'école. Déjà, le cofondateur Jean Gaudreau voit grand pour son initiative. On espère l'offrir à d'autres écoles. On voudrait que ce soit offert à tous les clients et non seulement une clientèle qui... à tous les jeunes plutôt, et non seulement une clientèle qui peut être démotivée par l'école. Cette expérience fait du bien à tout le monde. On apprend dans plusieurs matières et beaucoup sur l'humain, témoigne-t-il. Les groupes, constitués en général de 8 ou 10 jeunes et de 3 accompagnateurs, participent à plusieurs activités axées sur la motivation scolaire, l'estime de soi et les saines habitudes de vie. Pendant quelques jours, les matières scolaires prennent place au cœur de la nature. On est toujours en train de faire des expériences. La nature est toujours un bon sujet. Les jeunes apprennent en s'amusant et sans le savoir. Ici, ils apprennent des choses qui en classe n'auraient pas tellement de sens, raconte le cofondateur du projet qui a accueilli une centaine de jeunes au cours des 4 dernières années. Les journées débutent très tôt et finissent très tard au camp Patmos situé dans le secteur de l'Ascension de Notre-Seigneur. Là-bas, c'est tout sauf des vacances qui attendent les jeunes alors qu'ils sont en charge de cuisiner les repas lors du séjour. L'activité physique est au rendez-vous chaque jour, beau temps ou mauvais temps, alors que la coopération est mise au profit de la compétition. Voilà, c'est tout pour cette heure de les quotidiens, le quotidien des quotidiens. Il reste encore une bonne demi-heure à passer ensemble. Restez avec nous pour, entre autres, l'actualité culturelle.
Sans faire dans le sac.
Dominique Sanson, alias Souza.
Actualité culturelle, le spectacle Odysseo de la compagnie Cavalia s'amène à Montréal pour la période estivale. Dès le 25 juillet, Odysseo sera présenté sous un grand chapiteau blanc à l'entrée du pont Jacques-Cartier, sur la rue Sainte-Catherine-Est, à l'angle de l'avenue Delormier. C'est la première fois que Cavalia s'installe dans le centre-ville de Montréal. Le spectacle Odysseo combine les arts équestres avec des performances acrobatiques. Le public y aura notamment l'occasion de revoir deux artistes du premier spectacle de Cavalia qui fouleront pour la première fois les planches d'Odysseo, la chanteuse Pamela Boyer, La Voix 2018, et Sylvia Zerbini. La compagnie Cavalia célèbre ses 15 ans cette année. Depuis 2003, les spectacles Cavalia et Odysseo ont été vus par 8 millions de spectateurs dans le monde. L'improbable rencontre entre Deadpool et Céline Dion. Céline Dion continue de nous surprendre. Hier, elle a présenté une nouvelle chanson à Chus qu'on vous a fait entendre et qui se retrouve sur la bande originale du film de super-héros Deadpool 2. Voici un résumé de ce que vous devez savoir sur cette chanson événement. C'est un article de Véronique Lauzon dans la presse d'aujourd'hui. Alors, la chanson à Chus colle bien au répertoire de la chanteuse québécoise. Il s'agit d'une ballade où le talent vocal de Céline Dion est mis en évidence. Jusque-là, rien de bien surprenant. Ses fans peuvent enfin se mettre du nouveau matériel anglophone sous la dent. Mais ça ne s'arrête pas là. Avec la chanson vient un vidéoclip qui, lui, étonne. Ashes se retrouve sur la bande originale du deuxième chapitre de Deadpool, un des anti-héros les plus irrévérencieux du monde de Marvel. Déjà, il est plutôt comique de voir son nom à côté de celui de l'irréprochable Céline Dion. Dans le clip réalisé par David Leitch, Deadpool 2, Atomic Blonde, ce sont des... donc l'homme qui a réalisé ces deux œuvres que je viens de mentionner. La diva est sur la scène du Caesars Palace à Las Vegas et chante entourée de quelques musiciens devant une salle vide. Puis, Deadpool, en talons hauts, vient exécuter une danse queer autour d'elle. Ce duo improbable a un effet surréaliste. Une chose est sûre, on ne peut pas reprocher à l'artiste de 50 ans de ne pas être de son époque. Qui est Deadpool? Deadpool, Wade Wilson de son vrai nom, est aussi surnommé « The Merc with a Mouth » parce qu'il est fort en gueule. Il est très grossier et ne laisse passer aucune occasion de lancer une blague salace. Deadpool est un ancien soldat des forces spéciales devenu mercenaire sans affiliation qui flirte tantôt avec les mutants des X-Men, tantôt avec des criminels. Comme Wolverine, merci Mathieu, c'est un mutant doté d'un pouvoir de guérison quasi instantané. Aucune blessure ne lui est mortelle. Sa mutation a été induite en laboratoire par un service secret du gouvernement et a eu comme effet secondaire de le défigurer. Dans ce deuxième film, il crée une super équipe, la X-Force ou la X-Force, pour l'aider à combattre Cable, un puissant mutant, fils de Cyclope, qui deviendra par la suite son allié. Deadpool est irrévérencieux, grande gueule et canadien, tout comme le comédien qui l'incarne, Ryan Reynolds, natif de Vancouver. Celui-ci a toujours été un grand admirateur de cet anti-héros et a déplacé des montagnes pour porter son histoire au grand écran. Après plus de 10 ans d'efforts et une première apparition peu convaincante du personnage dans X-Men Origins, Wolverine, le Deadpool de Ryan Reynolds, a pris l'affiche en février 2016 et a amassé plus de 780 millions au box-office mondial. Et voilà qu'une autre Canadienne s'ajoute à cette saga. Céline Dion est invitée à chanter et à ajouter sa folie au monde de Marvel. Pour la petite histoire, Deadpool n'est pas le seul super-héros à payer des impôts au Canada. Il y a également Wolverine, originaire de l'Alberta, et Superman, dont la forteresse de la solitude se situe dans le Grand Nord canadien. Il faut ajouter que Deadpool est le seul super-héros qui brise le quatrième mur en s'adressant aux spectateurs, semblant tout à fait conscient d'être un personnage de film. Lorsque la chanteuse termine Ashes, il l'interpelle de la salle « Céline ». Beaucoup, beaucoup de « i » ici. « C'est incroyable, c'est la plus belle performance que j'ai vue de ma vie », crie-t-il. Mais il poursuit en disant qu'il faudra recommencer parce que c'était trop bon pour le film. « C'est Deadpool 2, pas Titanic. Tu es à 11, il va falloir descendre à 5 ou 5,5 sur 10. » Bien entendu, la Québécoise n'a pas l'intention de réfréner son talent pour lui faire plaisir. « Fous le camp, Spider-Man », lui lance-t-elle. Insulte suprême pour Deadpool puisque les gens le confondent souvent avec Spider-Man, qui porte lui aussi un costume rouge. « J'aurais dû demander à NSYNC », conclut le super-héros canadien. Les réactions. En seulement quelques heures, le vidéoclip a été vu par plus d'un million de personnes hier. Voici quelques réactions publiées sur les réseaux sociaux. Alors Céline Dion écrit « Dans ma carrière, on m'a offert d'incroyables chansons et projets. Ashes est l'une de ses chansons et Deadpool 2 est vraiment hors norme. Préparez-vous à vivre des moments époustouflants avec Deadpool Movie en salle le 18 mai. C'est à mourir de rire, Céline, avec 2X, 2 bec. » Xavier Dolan, Stop Everything, Céline Dion, Ashes from Deadpool to Motion Picture Soundtrack. Puis, il donne le lien YouTube pour écouter la chanson et voir le vidéo. Catherine Pogonat, clip complètement surréaliste. Ryan Reynolds, Showtime, Mama. Good Morning America, Céline Dion, avec un S, new single, Ashes, Surprisingly Features. Aussi, mon éclat de rire de la journée, c'est Emmerich Partenot de Céline Dion, le génie absolu de cette femme. Et Benji Lamalisse, ah, les gens qui n'ont pas saisi que le maquillage de Céline Dion était volontairement forcé pour ce clip dans lequel elle se joue d'elle-même et qui se défoule avec un émoticône, puis les yeux tournés vers le ciel en voulant dire oh, oh my God! La maison de vente aux enchères canadienne Heffel a annoncé que sa vente du 30 mai prochain comprendrait les larges figures schématiques 1956 de Paul-Émile Bourdua, père de l'automatisme, pédagogue, auteur de l'essai qui donna plus tard son titre à Refus global. Cette large toile, 4 pieds de haut par 6 de large de la série des Noirs et Blancs de Bourdua, a été peinte à Paris. Elle a fait partie en 2008 de l'exposition « Les automatistes » à la Galerie Orange. La maison Eiffel estime que la toile pourrait atteindre les 3 à 5 millions de dollars. Seront également mis à l'encan à Toronto un Tom Thompson, deux Jean-Paul Riopel, deux Jean-Paul Lemieux, des Lauren Harris et un Émilie Carr. Pour sa deuxième édition, le Festival de films féministes de Montréal célèbre de la même manière la diversité des féminismes et des voix qui les portent. Il sera notamment question d'afroféminisme, d'intersectionnalité, de maternité, de féminisme autochtone et de la culture du viol sous la forme de films, de concerts et d'ateliers. Une occasion pour engager des discussions ouvertes, politiques et passionnées sur des réalités d'ici et d'ailleurs. C'est jusqu'au 12 mai. Entrée fixée à 7 $, mais la contribution est volontaire selon vos moyens. Et on nous donne ici un site programmation bit.ly/2kzdkin.
«
Et pour terminer, l'Académie des Oscars, l'Académie des arts et techniques du cinéma, qui chapeaute notamment la cérémonie des Oscars, a annoncé hier l'exclusion de ses rangs de Bill Cosby et de Roman Polanski. La décision fut prise mardi soir lors d'une réunion du Conseil des gouverneurs. Bill Cosby a été reconnu coupable la semaine dernière d'agression sexuelle et pourrait en théorie recevoir une peine de 30 ans de prison. De son côté, Roman Polanski a fui les États-Unis il y a 40 ans avant de connaître sa peine pour avoir violé une mineure. Rappelons qu'Harvey Weinstein a lui aussi été exclu de l'Académie l'an dernier. Dans une déclaration officielle, l'organisation stipule que cette décision s'accorde à ses règles de conduite. Le Conseil continue d'encourager les règles éthiques, engageant ses membres à défendre les valeurs de respect et de dignité humaine que défend l'Académie.
Je disais calvaire, il est temps d'arrêter sa liberté. Un coup de pied dans le cul, ça peut réveiller. Quand personne ne sait plus pourquoi travailler, c'est donc toujours plate. J'ai le goût de m'en aller quelque part. Je voudrais sacrer le camp. Plus ça va, plus ça devient bon. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi, sans qu'on mange le dos. Laisse-moi donc tranquille le soir, brailler comme il faut. Trouve-toi une place, t'as plus tellement de temps. Mais y'a rien à faire, les patrons veulent plus. Tu vaux plus bien cher, t'es tout nul en rue, t'es dégoûté. La maudite machine qui t'a avalé, à marchant candide, faudrait la casser, faudrait la casser. Plus ça va, plus ça vient bon. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi, sans qu'on mange le dos. Laisse-moi donc tranquille le soir, brailler comme il faut. Come on.
pouvait tous y être, c'était La Maudite Machine par le groupe Octobre.
Dans le Devoir environnement, Arrow sur le suremballage. Le mouvement citoyen mondial fait boule de neige et atteint la métropole, c'est un article d'Isabelle Paré. Après Bristol, Amsterdam, Bruxelles, Oslo et même New Delhi et Séoul, Montréal sera le théâtre d'une première « attaque au plastique » entre guillemets, dimanche, un événement qui s'inscrit dans la foulée d'un mouvement citoyen mondial né sur les réseaux sociaux le 26 mars dernier, pour lutter contre le suremballage des produits de consommation. La métropole serait la première ville d'Amérique à rallier ce mouvement spontané qui, en quelques semaines, a fait boule de neige en Europe et ailleurs sur la planète. Née à la fin de mars après un premier événement public de désemballage, mené par 25 clients dans un supermarché de Bristol au Royaume-Uni, le mouvement s'est propagé à la vitesse éclair à la faveur de la création d'une page Facebook diffusant modes d'emploi et événements à venir partout dans le monde. À la mi-avril, l'effet domino avait donné lieu à 46 actions dans 17 pays. Et des dizaines d'autres villes ont rejoint la liste le 22 avril, notamment dans les Pays-Bas, en Espagne et au Portugal. L'élan vise à sensibiliser les consommateurs aux désastres écologiques créés par les 6 à 8 millions de tonnes de plastique qui finissent rejetées dans les océans. Les trois Montréalaises à l'origine de Plastic Attack Montréal ont créé leur propre page Facebook après avoir contacté les fondateurs belges du mouvement pour préparer la tenue le dimanche 6 mai à 15 h d'une intervention à l'extérieur d'un supermarché Provigo du quartier Rosemont. Les clients de ce commerce seront invités à venir faire leurs courses puis à transférer leurs produits dans des sacs réutilisables après avoir passé les caisses et à laisser les emballages de plastique dans les chariots situés à l'extérieur du commerce. Un geste simple et pacifique, disent les fondatrices de Plastic Attack Montréal, pour sensibiliser tant les consommateurs que les commerçants à ce fléau. Ça ne vise ni Provigo, ni aucune grande surface en particulier. Même des épiceries bio font du suremballage. Grâce à ce déballage collectif, on veut simplement alerter les gens face à ce problème mondial. On a choisi de le faire dans un lieu où beaucoup de gens se sentiront interpellés, affirme Marie-Ève Bolduc-Lemoine, instigatrice de l'événement avec Caroline Thibault et Eva Franck. Sans affiliation politique ou militante, les organisatrices disent avoir choisi ce commerce en raison de sa localisation dans un quartier habité par de jeunes familles, reconnu pour ses nombreuses initiatives vertes. Malgré le nom du mouvement choisi par les fondateurs belges, elles affirment que le geste se veut d'abord et avant tout ludique, positif et non coercitif. La totalité des emballages laissés sur place seront d'ailleurs acheminés vers des lieux de recyclage, disent-elles. On veut simplement alerter les gens face à ce problème mondial, Marie-Ève Bolduc-Lemoine, co-instigatrice de l'événement. Selon les fondatrices de Plastic Attack Montréal, les commerces pourraient même tirer profit de tels événements. Au Royaume-Uni, certains ont même fourni des sacs réutilisables et se sont engagés à réduire l'emballage de leurs produits, ce qui leur a fourni une occasion de donner une image très positive. À Bruxelles, plus de 500 personnes ont participé, affirme Mme Bolduc-Lemoine. Après Montréal, ce sera au tour de Genève, Paris, Berne, Lausanne, de dizaines de villes de la Belgique et notamment de Cusco au Pérou de prendre le relais le 2 juin prochain lors d'une journée mondiale de mobilisation annoncée pour la tenue d'événements de désemballage collectif. Un second événement pourrait d'ailleurs être tenu à Montréal à cette occasion. Parlons guenilles. L'ultime guide de tous les printemps, c'est une collaboration de Chantal Lamarre dans la presse d'aujourd'hui, section pose chic. Mine de rien, ça paraît pas de loin, mais oui, j'ai la sagesse et l'expérience d'avoir vécu plus de 50 dégels. Si je retourne dans les premiers dossiers de mon classeur de réminiscences en mode, tout commence avec les années d'école primaire. Le printemps annonçait une sourde compétition de qui aurait la mère la plus permissive, celle qui laisserait partir ses filles le matin avec des bas trois quarts et une mini-jupe pendant que d'autres filles portaient encore une capine. Un extrait d'archives sonores avec la voix de ma mère, s'il existait, donnerait « Ben, vous gèlerez, c'est tout! » Dehors, c'est la fin des années 60. Je porte la cape bleue ciel en tweed avec des boutons ronds nacrés que ma tante Georgette a cousus pour la confirmation de ma grande sœur Hélène. Comme Hélène aime se rouler par terre et kicker des ballons, à moi la cape. Je me prends pour une hôtesse d'Expo 67. Chaque année, au premier crocus qui émerge, j'ai envie de coupes nettes, d'alliages de couleurs franches, simples comme les agencements de vêtements de Françoise Hardy ou René Claude, ou fous comme sur les images de mode avec Twiggy. Tout ce qui flotte dans l'air entre dans mes oreilles et est capté par mon regard qui confirme que « a sign of the times », le futur est arrivé. J'ai accès quand même à l'époque, à de vieux films et à des séries télévisées en noir et blanc. Et j'aurais des inclinaisons pour les jupes à corolles, les imprimés à petites fleurs et les chapeaux à voilettes, mais ma mère tranche, t'auras l'air d'une petite mémère. Pour revenir à cette fabuleuse période, il y avait quand même des dictats auxquels je ne me serais soumise pour rien au monde. Porter des faux cils en plein jour, un postiche monté avec deux paquets de bobby pins et qui reviendrait au tissu synthétique qui gardait aux aisselles une odeur de swing cuit. De mes années 70, j'ai parfois des relents de patchouli, de pantalons à pattes larges et à taille haute, de robes champêtres, de Laura Ashley et d'accessoires affichant une touche ethnique, sandales indiennes, souliers chinois et sabots de bois scandinaves, mode salutaire pour une adolescente qui trouve refuge sous une tunique brodée ou des superpositions avec une touche masculine comme Diane Keaton dans le film Annie Hall, gavroche et stylée bien avant l'idée du non-genré. Beaucoup de wow me reviennent, mais je passe mon tour si reviennent les montures de lunettes avec la branche en bas, les robes disco en satin ou le total look métier d'art dans une palette brun-beige et citrouille cuite. Qui voudrait porter des sandales en bois du Dr. Scholl ou Scholl, des bas rayés à orteils ou de larges bretelles avec des étoiles blanches dessus? Moi, mais pour jouer au Big Bazaar ou à la comédie musicale Hair dans le sous-sol anonymement. Des années 80, je retiens très peu. La ponquitude et les bourgeons qui se déploient me semblent incompatibles. Et j'ai ri et haï l'esthétique dynastie, épaulettes, volants, grosses têtes de cheveux inflammables de tant de spray net et les maquillages trop ceux avec du fard à joues subtil comme deux morceaux de duct tape collés sur les pommettes. Le printemps ou les printemps qui suivent nous permettent de glaner parmi tout ce qui nous a marqué nos influences quand même. Elles étaient lookées, Madonna et Mitsou. Elles étaient affirmées, Courtney Love et Winona Ryder des années 90. Acheter peu et mieux ce printemps, ajouter un accent de ce que vous aimez serait mon motto. Soyons sensibles, un gaminet de coton équitable et assemblé éthiquement et localement, oui, avec un message. Que penser d'un beau t-shirt blanc ajusté porté avec un capri noir comme Jean Seberg sur lequel on lirait en lieu et place du New York Times? Avez-vous écrit un commentaire haineux aujourd'hui? Sinon, un rose pâle avec mention féministe mais de bonne humeur assorti à une jupe corolle en tissu imprimé à petites fleurs. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Bonnes vacances! C'est Maurice Bolduc qui sera à votre place pendant les deux prochaines semaines. Bon week-end à vous tous. On se retrouve lundi.